des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, il m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a.
Philippe-Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question
une décision. Écoute, de... j'en venais
plus. Rien dire, on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
La rencontre Robitaille Foisy.
Philippe-Vincent, bonjour.
Salut.
Bon, Antoine est allé se faire un smoke meat, là. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais
Un smoke meat.
Parce qu'il s'est rendu compte qu'être en santé, ça donne rien. Il est malade comme tout le monde. un mot sur la commission Rouleau, Philippe-Vincent.
Oui, ben c'est la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui témoigne en ce moment. On est comme dans les dernières heures de cette commission-là, avant Justin Trudeau demain. Il n'y a pas de grosses révélations sur pourquoi on a appliqué la loi sur les mesures d'urgence. Là. On comprend qu'il y avait des enjeux financiers et autres, mais je pense que ce qui va retenir le plus l'attention, c'est la perception que les investisseurs avaient du Canada à ce moment-là. Hein. C'est pas la première fois qu'on en parle de manifestants là, qui bloquaient des voies ferrées, puis on disait que le Canada pas nécessairement un bon partenaire pour investir. Là, on bloquait la frontière canado-américaine. Il y a des usines productrices de voitures qui ont dû fermer certains corps de travail. Et là, elle a eu une rencontre avec des PDG de certaines entreprises qu'on ne peut pas nommer. Là. On ne sait pas c'est qui exactement. Puis il y en a un qui a dit « Je n'investirai plus un sou dans votre République de bananes » en parlant du Canada à cause de ces manifestations-là. Fait que,
Je pense que c'est la compagnie Dole qui a dit ça.
La République, ouais, eux autres, ils aiment ça, les Républiques de bananes, alors j'en doute. Ils ont fait des Républiques de bananes pour pouvoir y investir de l'argent, au contraire. Mais c'est là où la loi sur les mesures d'urgence devient intéressante, où on a... puis elle nous disait aussi qu'on n'a pas tous les outils. On n'avait pas tous les outils dans le coffre financier pour prendre des mesures contre le financement de ces gens-là. Donc, c'est là où ça devenait un peu intéressant. Donc, on a... En tout cas, moi, l'impression que j'ai depuis quelques jours, c'est que l'aspect économique de l'intervention fédérale était peut-être un peu plus importante que l'aspect sécuritaire et sécurité publique à proprement parler. C'est comme si la sécurité économique du pays était réellement remise en cause, surtout avec les États-Unis, Post-Alena. Elle disait, écoutez, il y a des républicains et des démocrates un peu partout qui n'attendent que ça, de pouvoir imposer d'autres mesures restrictives. On était dans le Buy American de Joe Biden aussi, post-pandémie. Alors, elle disait, il y avait un gros problème pour l'économie canadienne à cause de ces manifestations-là. Mais j'ai l'impression, donc, qu'on est plus dans... Il y avait un enjeu pour la sécurité économique que la sécurité nationale à proprement parler dans la loi du SCRS. Et c'est peut-être là la nuance qui n'a pas été évoquée hier.
Bon, on va finir par apprendre des choses, mais encore, est-ce que c'est réel ou on veut juste justifier l'intervention de la loi qu'on a utilisée pour contrer les camionneurs? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Là? Parce que tu dis, on peut pas identifier les compagnies à qui Chrystia Freeland a parlé. C'est bon, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est vrai?
C'est vrai, non, ce sont des rapports. C'est de la preuve. C'est de la preuve qui a été... amassé, étudié et caviardé pour protéger des personnes qui ne pensaient pas, lorsqu'ils ont parlé, un jour que ces conversations-là seraient rendues publiques. Donc, on est comme devant un tribunal. C'est les mêmes règles qui régissent un tribunal, qui régissent en ce moment la commission d'enquête. Et c'est là où on avait une nuance intéressante et un peu, je te dirais, pas mal dérangeante hier. C'est quand le ministre de la Justice, qui est aussi l'avocat du gouvernement, c'est le procureur général du Canada, qui disait, je peux pas vous donner les conseils que j'ai donnés au gouvernement juridique parce que c'est protégé par le privilège avocat-client. Mais tu dis, d'accord, sauf que ce sont ces conseils-là qui nous permettraient de comprendre pourquoi le gouvernement, légalement, et sur quelle base légale le gouvernement a utilisé quelle base légale pour décider d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Fait que tu dis, le nœud de la décision gouvernementale, on ne l'a pas, et donc c'est un peu difficile.
Mais on n'a jamais les avis juridiques.
Ah non, je comprends, mais pour ce cas-là...
Les avis juridiques, c'est toujours secret. Oui.
Bon, tout ça pour rien là-bas. Un mot, t'as parlé à notre ami Gabriel Nadeau-Dubois, Philippe-Vincent?
Ben oui, ce matin, de sa rentrée parlementaire, de l'inflation. et c'est une drôle de position, je trouve. Je pense qu'Antoine et moi, on va s'entendre là-dessus. Leur proposition de geler la hausse des tarifs. Tu sais, politiquement, c'est intéressant, ça sonne bien, c'est un beau buzz là en termes de marketing. Ça leur permet de vouloir défendre davantage et d'en faire plus. C'est juste que monétairement, ça change pas nécessairement la donne pour ceux et celles qui en ont vraiment, vraiment le plus besoin. Puis en bout de ligne, t'aides pas mal un petit peu tout le monde, mais pas beaucoup les plus pauvres. Et donc, comme politique de gauche, je pense qu'ils se trompent. C'est intéressant pour le débat public, mais en termes de politique publique, de ratisser aussi large alors qu'ils auraient dû décider de concentrer leurs efforts sur ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Là-dessus, moi, j'ai
c'est un vieux réflexe.
Puis après ça,
C'est un réflexe de gauche de demander un gel. Elle l'a fait dans le milieu de l'éducation supérieure pendant des années, puis on a vu ce que ça a donné. On se magasine un choc tarifaire à un moment donné, terrible, puis là, il n'y a plus un gouvernement qui veut dégeler, puis on donne. Il y a des gens qui demandent le dégel, puis là, après ça, c'est le gel. Non, il faut prévoir des hausses petites, et je pense que c'est ça que le gouvernement veut faire, 3%. C'est vrai que 3%, ça peut être beaucoup pour certaines personnes, mais quand même, là, ça coûte très cher, là, de geler tout, là. 1,3 milliard de dollars a évalué Québec solidaire. C'est sûr que d'envoyer des chèques aussi, ça a coûté très cher. Ça, on le dit.
Surtout ça qui a coûté cher, là.
Sauf que eux seraient favorables aux deux, probablement, là, Québec solidaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et je sais pas si tu l'as répété ce matin, mais c'était pas dans ses promesses électorales. On peut entendre un échange hier dans le point de presse.
Ça ne faisait pas partie. Non, il y avait différentes propositions. Il y a des tarifs qu'on proposait de réduire davantage. Je donne l'exemple des frais de scolarité, par exemple.
On proposait de les réduire de 25%. Pourquoi l'idée du gel n'avait pas été retenue dans le cadre de la campagne?
C'est-à-dire que quand on fait une campagne électorale, on présente des engagements en tant que futur gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite quand on fait une campagne électorale. Une fois les élections passées, notre rôle change. On est ici pour talonner le gouvernement, pour lui faire des propositions, puis on essaie de faire des propositions qui sont les plus susceptibles possibles d'être prises par le gouvernement.
Alors, Benoît, Philippe Vincent, désormais, il va falloir demander aux partis politiques un programme s'ils sont au gouvernement, puis un programme s'ils sont dans l'opposition.
C'est exactement ça.
C'est un peu spécial comme réponse, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui a tant changé en un mois?
Il revient sur les frais de scolarité aussi. Faudrait peut-être qu'il change de disque.
C'était une proposition de réduire de 25% les frais de scolarité. Ça, c'était une proposition dans leur cadre financier, dans leur...
Et on finance comment les universités?
Ouais. Ben, on met plus d'argent.
Salaire, là, de 6 milliards de dollars par an.
Oui, c'est ça. Tu sais, mais les gros salaires, ils passent, là, tu sais, à un moment donné, chacun paye sa part aussi. Mais effectivement, tu sais, là, le go, c'est quoi, 6,7 milliards en 6 mois en carte cadeau?
Pour les ménages qui font 200 000 par année, là, je dis, c'est hallucinant, là, que c'est ça.
Mais personne ne revient là-dessus. Tout le monde l'a accepté.
Ben, on le dit. Je veux dire, moi, je le répète à chaque fois.
Non, mais les oppositions,
parole,
là.
Mais...
L'opposition.
Je sais, mais. Ils sont pris dans leur gestion interne d'Assemblée nationale et de serment au roi qui a été prêté, d'ailleurs, par Québec solidaire. Mais, tu sais, à un moment donné, Québec solidaire avait une belle occasion de dire les chèques, changez-les, à aider ceux qui en ont le plus besoin. Moi, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, je fais 2000, 1500 par mois. Un chèque, ça va m'aider. Je dis, oui, mais. Mettons, un chèque de 1500 t'aiderait beaucoup plus qu'un chèque de 600, puis un chèque de 400 à une famille qui gagne 100 000. Mmh. À une personne qui gagne 100 000, l'aide n'est pas aussi importante. Je comprends que l'inflation est gossante pour tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes besoins face à cette inflation-là.
Oui, puis si t'as pas à payer des services au privé parce qu'on est capable de les rendre au public, ben tu vas sauver de l'argent dans ton budget aussi, puis pour les plus démunis aussi.
Mais aller réécouter l'entrevue à Gabriel Nadeau-Dubois, Antoine, je serais curieux de savoir ce que tu penses. Parce qu'à la fin, j'y ai dit, ouais, mais le loyer et tout ça, c'est la Banque du Canada qui gère ça. Puis oui, mais il faudrait que Legault demande à Justin Trudeau de peut-être envoyer un message à la Banque du Canada.
Est-ce qu'on est rendu à la fin?
Demandez-vous. Je soulève la question.
À la fin de la réflexion de Québec solidaire? Est-ce qu'ils ont fait le tour? Puis ils ont de la misère à renouveler leur pensée.
Ouais, mais Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un manque de culture juridique dans ce parti. Et souvent, ils ont des propositions comme celle-là. Puis, on se rend compte que c'est le fédéral qui est responsable. La question de Félix-Vincent est très bonne. Tu sais, on a beau lever le nez, encore une fois, sur les questions constitutionnelles. À un moment donné, il faut connaître un peu le cadre. Puis, savoir que tel gouvernement s'occupe de telle affaire, puis tel gouvernement s'occupe de telle autre. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air d'une obsession de ma part, mais je veux dire...
Ça en est une, Antoine, avoue-le, là, c'est une obsession.
Non, mais je l'avoue, c'est une obsession
c'est le seul qui
délicieuse
connaît les règles,
dans laquelle je me vautre,
oui.
mais...
Non, mais si t'es en politique, si tu veux, mais... si tu penses devenir le prochain gouvernement, ce sont des choses que tu devrais savoir.
Oui, c'est ça. Puis aussi, quand t'es législateur, il faut que t'aies une culture politique. Puis il y a pas assez de monde, je trouve, dans ce parti-là,
ouais,
qui ont ce type de notion-là. Et il y a pas assez d'avocats. Je veux dire, ça, oui, ça prend pas juste des avocats. Il y a une certaine époque, il y avait juste des avocats à l'Assemblée nationale. Puis bon, c'était pas toujours une bonne affaire. Mais quand il y en a plus, il y a un problème aussi.
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire dans le fond de ta pensée, là? Vas-y.
Le fond de ma pensée?
Oui.
Ben, je pense que les avocats ont un rapport à la vérité qui est un peu particulier, souvent.
Mm.
C'est les avocats, c'est la vérité, c'est selon mes intérêts, tu sais.
La cause
de tu sais, c'est comme Guy Bertrand, tu sais, qui était ultra indépendantiste, tout d'un coup, parce qu'il était fâché, parce que M. Parizeau, il l'avait pas consulté, avant le référendum de 95, il est devenu hyper anti, puis là, il y avait toutes sortes d'arguments juridiques, puis bon.
Le feu dans les rues, puis là, il est revenu indépendantiste.
Il est redevenu après, nous a écrit un guide pour l'indépendance, en tout cas. Mais, hey, je tiens à dire que Québec solidaire, puis Philippe-Vincent l'a dit, mais ils ont prêté serment à Charles III, il irait juste à Arun Boisy, il paraît, qui vient d'avoir son rendez-vous. Mais on peut écouter un beau moment de malaise hier au point de presse à ce sujet.
On s'est entendu pour le faire tous et toutes. Donc, dans le fond, tout le monde le fait. Il y a juste notre collègue Arun qui a son rendez-vous demain. Donc, ce sera fait dans les prochaines heures. Sinon, tout le monde est passé par ce désagréable, mais néanmoins, malheureusement nécessaire moment.
Pour le moment.
Exact.
Est-ce que vous êtes senti salut, monsieur?
Ça a été le fun pour personne.
Non, mais la dernière fois, vous êtes pas salut, c'était souillé que vous aviez utilisé.
Ouais, je préfère pas commenter encore.
Est-ce que les candidats
disent
que
toujours?
C'est à jamais.
Il a dit qu'il était souillé à jamais à cause de son serment de 2018.
Hmm. À Elisabeth, imagine à Charles comment il devait être souillé. Mais on dirait qu'il parle du serment, on voit, comme d'un rendez-vous pour une coloscopie. Il fallait passer par là.
Sans anesthésie.
C'est pas mal ça.
Bon, parfait.
C'est
on sait ça.
Charoun, là, il était sur la liste d'attente.
Ouais.
OK.
Il s'en vient, c'est le next appelé. Merci à vous deux, on se refait ça demain.
À demain.
Salut.